Les podcasts du Figaro.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue au club Le Figaro, le club politique dont vous avez maintenant l'habitude de retrouver, que vous avez l'habitude de retrouver tous les mardis à 20h. Et j'en profite ce soir, pour la première fois, pour saluer eh bien tous ceux qui nous regardent depuis le continent africain, puisque cette émission est également retransmise sur le continent africain grâce au réseau de Télésud. Alors ce soir, nous allons vous poser trois questions, comme d'ailleurs chaque mardi. La première question, c'est de quoi cette affaire Julien Bayou, qui occupe toute la presse, tous les médias, est-elle le nom? La deuxième question, et depuis hier, évidemment, tout le monde s'interroge, mais pourquoi la France n'arrive pas, depuis des décennies d'ailleurs, depuis Valéry Giscard d'Estaing et 1974, à faire des économies budgétaire. Et puis la troisième question, eh bien on va partir pour Rome et puis on va regarder un peu ce qui se passe avec ces élections législatives qui ont donné madame Giorgia Meloni probablement comme future présidente du Conseil en Italie pour savoir si eh bien cette élection peut avoir quelques résonances dans notre propre pays ici même en France. À tout de suite, on se retrouve. Plateau de choix ce soir, avec Anne de Guigné, qui est journaliste au service économie, spécialiste des problèmes de macroéconomie, et qui a sorti un livre juste avant l'été sur le capitalisme woke aux éditions La Cité. François-Xavier Bourbeau.
Bonsoir.
Tout le monde connaît votre signature, évidemment, au Figaro. Figaro Politique, grand reporter. Vous aussi, vous avez signé un livre il n'y a pas très longtemps avec Charles Sapin, voilà. Qui est aujourd'hui journaliste au Point. Et c'est ce livre-là, Macron-Le Pen, je dois le dire, qui a été signé avant l'élection présidentielle. Mais ça a été la finale. Ça a été la finale. Vous avez eu très peur à un moment, mais finalement, c'était la finale.
C'est sûr qu'on a eu peur pendant 6 mois, oui.
Marie Oumagal, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au club du Figaro et bienvenue au Figaro tout court, puisque il faut le dire, vous rejoignez le service politique depuis peu. Vous l'avez rejoint il y a pas très longtemps, et on va avoir l'occasion aussi de lire un de vos livres dans quelques semaines, La Bérézina, à propos de Éric Zemmour, qui est donc l'autre homme de la droite nationaliste française, et c'est aux éditions du Rocher. Notre invité ce soir, Gaspard Ganzer.
Bonsoir Yves.
Bonsoir, bienvenue dans les locaux du Figaro. Je ne sais pas si on doit vous présenter, mais enfin, vous êtes conseiller en communication, vous êtes enseignant à HEC, à Sciences Po, à l'Institut des Sciences Politiques, et vous avez été conseiller de la communication de François Hollande lorsqu'il était à l'Élysée. Et vous sortez également, ce soir, nous avons 4 écrivains, un livre, Êtes-vous encore de gauche?
Exactement.
Aux éditions chez Flammarion, donc Gaspard Ganzer, ce livre est déjà sorti.
Hein, il est sorti il y a 15 jours.
Il est sorti il y a 15 jours. Et le Figaro s'en est d'ailleurs fait l'écho. Alors, la première question, la formulation est simple, la réponse est beaucoup plus compliquée, je vous l'accorde. De quoi l'affaire Julien Bayou est-elle le nom? Alors, pour résumer en 2 mots, Julien Bayou, qui est un homme politique français, Europe Écologie Les Verts, secrétaire national de son parti, qui était co-président à l'Assemblée nationale de son groupe, à l'Assemblée nationale, parlementaire, eh bien, il a été rattrapé, si vous me permettez l'expression, par une histoire qui n'a aucune suite judiciaire à l'heure où l'on parle. Et cette histoire, c'est quelqu'un qui, de son propre parti, qui s'appelle Sandrine Rousseau, qui est une figure montante de la politique française, qui, lors d'une émission de télévision, eh bien, a dit que Julien Bayou avait connu quelques problèmes et exercé quelques pressions psychologiques sur une jeune femme dont il était en instance de séparation. Tout cela apparaissant dans le cadre aussi de l'affaire Catenins, une histoire qui a des suites, parce que Madame Laurence Rossignol, sénatrice du Parti Socialiste, a dit mais il faut que les partis créent leur propre structure, qu'il y ait une justice politique, d'une certaine façon, je caricature à peine. Le garde des Sceaux a tout de suite répondu, hors de question, il y a une justice pénale en France, c'est à elle de s'occuper de ce genre d'affaires. Alors, Marie-Lou, Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? D'abord, parce qu'il y a deux sujets, en fait. Il y a la réponse et le fait que les affaires privées soient jetées en pâture dans les médias, même pas par les acteurs eux-mêmes.
Mais d'abord, il y a le contexte, c'est-à-dire que la déclaration de Sandrine Rousseau intervient un jour, il me semble, après l'affaire Quatennens. Donc c'est un sujet qui est pour le moins électrique. S'agissant de l'affaire Quatennens, il y a vraiment des faits qui ont été caractérisés, une gifle, des faits de violence de la part d'Adrien Quatennens. En l'occurrence, pour Julien Bayou, on ne sait même pas de quoi il s'agit, on ne sait pas quels sont les faits. Sandrine Rousseau parle de violence morale. Il y a ensuite l'avocate de Julien Bayou hier qui a fait état de mails envoyés par l'ex-conjointe de Julien Bayou qui relatait des épisodes de violence morale, mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Julien Bayou a dû réagir, quitter ses fonctions. C'était vraiment un tribunal médiatique pour le coup qui s'est déclenché immédiatement.
Et là, est-ce que c'est la politique qui dérive ?
Est-ce que ça, je sais pas, pour le coup, on sait pas de quoi il s'agit. On sait pas quels sont les faits qui sont reprochés à Julien Bayou. On sait simplement que lui a décidé de quitter ses fonctions, qu'il avait lui-même saisi la cellule contre les violences au sein de
qui est interne au parti, oui, et qui semble-t-il n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la politique, elle va en crever de ça?
Ah ben, vu la direction que ça prend en ce moment, oui, on se dirige vers quelque chose qui a l'air assez sale. Alors, je voudrais pas casser l'ambiance tout de suite, mais c'est pas une affaire Julien Bayou, c'est une affaire Sandrine Rousseau dont on parle. Ah. Parce que c'est elle qui met sur la table des éléments privés, qui agit comme un corbeau à visage découvert, en fait, et qui met en cause pour des raisons politiques. On sait qu'il y a un congrès des écologistes à la fin de l'année, et que Julien Bayou est son adversaire. Donc, qui expose sa vie privée, sur la scène publique, pour en espérant affaiblir un adversaire. Alors de quoi l'affaire Sandrine Rousseau est-elle le nom ? Ben, ce serait plutôt celui d'un dévoiement de la justice. On voit que dans ces cellules qui sont mises en place dans les partis politiques,
sans doute à raison. Surtout à gauche d'ailleurs, hein, ça n'existe pas, semble-t-il, à droite.
Peut-être à raison, c'est
je parle des cellules, des sujets, je parle pas du problème des affaires.
Mais sur quoi ces cellules débouchent aujourd'hui? On voit avec la succession d'affaires qui se sont étalées ces derniers jours, donc on parlait de Quatennens, mais il y a eu d'autres affaires aussi chez LFI, c'est une justice qui est expéditive, c'est une justice parallèle et c'est une justice à deux vitesses. Donc toutes ces l'affaire Sandrine Rousseau, c'est ça, c'est un dévoiement de la justice et de ses officines, enfin de ces cellules qui agissent au sein des partis. Si ça doit continuer à se développer dans cette direction-là, effectivement, ça peut pas être bon pour la politique.
Vous êtes un peu sur la ligne du garde des Sceaux actuel, de Éric Dupond-Moretti.
Mais c'est paradoxalement, ça rassure sur l'état de la justice française. Parce qu'on se rend compte que là, oui, enfin, et puis même la justice française, on peut lui reprocher sans doute beaucoup de choses, d'être trop lente, d'être parfois compliquée, d'être parfois éloignée des citoyens. Mais enfin, la justice, elle est aveugle. C'est Thémis, la déesse bandée. Et ben voilà, quand les Verts enlèvent le bandeau de Thémis, on trouve le visage de Sandrine Rousseau.
N'est-ce pas, Ganser?
Bon, on est. Pour rester sur l'idée de la balance de la justice, là, c'est vrai qu'on est dans un mouvement de balancier très violent.
Ouais.
Il y a quelques années, il y avait une forme d'impunité. On savait que dans beaucoup de milieux politiques, économiques, il peut y avoir, comme dans l'ensemble de la société, des violences physiques, morales, contre les femmes. Et on l'a réalisé très brutalement au moment du mouvement MeToo. Et là, on est vraiment dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est à l'époque de l'Inquisition espagnole, de Torquemada, et qu'il y a un nouveau Fouquet-Tinville, là, c'est plutôt 1789, qui s'appelle Sandrine Rousseau. Et évidemment, c'est pas acceptable, parce que on a mis, c'est ce qu'a dit le garde des Sceaux cet après-midi, mais on a mis plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles, presque millénaires à construire une justice raisonnable, raisonnée, reposant sur le temps long, la présomption d'innocence, l'équilibre des droits de la défense. On s'est battu pour cela. Hein. La Révolution française, la Révolution britannique, ce sont des révolutions qui sont faites contre l'arbitraire, justement, des décisions royales. Donc, faisons attention à ne pas fragiliser cela. Donc, je pense qu'on ne peut que être d'accord avec Éric Dupond-Moretti. Après, Évidemment, il y a un peu de manip politique, peut-être, de la part de Sandrine Rousseau. Mais il faut quand même reconnaître la très grande habileté de la leader vert, qui arrive à se mettre, franchement, depuis un an, et sa défaite à la primaire des Verts contre Yannick Jadot, systématiquement au centre du jeu médiatique. Alors, peut-être qu'elle y perd, au passage, en crédibilité. Mais en termes de notoriété, c'est la révélation politique des 12 derniers mois.
Et donc, vous dites, vous estimez que en termes de communication, si on est cynique, elle est plutôt, elle est douée, quoi.
Bah, elle est même exceptionnelle. Il y a un an, personne ne connaissait Sandrine Rousseau. Ouais. Aujourd'hui, elle est devenue un personnage incontournable du paysage politique et médiatique.
Qui, pour représenter la gauche, rivalise presque avec Jean-Luc Mélenchon.
Bah, après Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est la deuxième personne la plus connue. Or, Jean-Luc Mélenchon est plutôt sur la fin de sa carrière politique, il l'a dit lui-même. Sandrine Rousseau est beaucoup plus jeune, elle peut être là pour très longtemps, et elle va être vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, hein, parce qu'il va pas être facile de la déloger. Les gens qui vont essayer de porter un langage raisonnable, raisonné, tel Yannick Jadot, Bernard Cazeneuve ou quelques autres, ils vont avoir bien du mal à faire entendre leur voix face à une personne qui connaît toutes les règles du jeu politique et médiatique actuel.
Anne, on n'a pas l'impression que ça puisse s'arrêter là, ce phénomène. Alors après, il faut pas nier qu'il y ait des violences faites aux femmes, ça c'est évident. J'ai presque envie de dire c'est vieux comme le monde, mais il y a réalité et fiction aussi, hein.
Oui, et là en plus on est en train de, je pense cette affaire, elle illustre vraiment un mouvement qui, à mon sens, est vraiment très grave. C'est qu'on sort de plus en plus la morale remplace le droit. Et la morale, par nature, elle est arbitraire. Chacun a, là, la morale des néo-féministes, c'est clair. Là, c'est même pas une femme à parler. C'est une femme à parler au nom d'une femme qui lui aurait fait des confidences. Donc, c'est la vérité.
Et, sans rester en justice.
Voilà. L'homme doit partir. Enfin, c'est, donc on voit que la morale remplace le droit. Dans les habitudes de la vie politique, je pense vraiment dramatique pour la scène politique. Et il y a un deuxième mouvement qui est grave, c'est qu'on a, je pense, la vie civique en France, elle a été vraiment fondée sur la différence entre la vie privée et la vie publique pour tous les citoyens. Pour les élus, depuis longtemps, c'est compliqué. Vie privée et vie publique se mêlent, évidemment, quand on est élu. Mais aujourd'hui, mais même pour n'importe qui, avec les réseaux sociaux, ça s'entremêle complètement. Et on voit que pour les élus, il n'y a plus aucune limite entre la vie privée et la vie publique, et ce qui rend juste la vie d'élu impossible. Donc, je pense qu'on a vraiment deux mouvements qui, à mon sens, sont fondamentaux et dramatiques.
Mais là, je me tourne vers Gaspard Kanzer. C'est possible d'avoir une vie privée quand on est élu?
Ça devient vraiment très difficile. Compliqué. Alors après, il y a plusieurs niveaux.
Surtout, il y a la pression médiatique.
Je pense que l'élu local, l'élu national, c'est pas évidemment exactement la même chose. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit souvent des élus locaux qui, à mon avis, arrivent à avoir une vie privée. D'un coup, ils rentrent dans la piscine, on va dire, de la vie politique nationale et là, les choses sont quand même beaucoup plus violentes. Hein. Il y a un côté changement de niveau de jeu. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui ont fait les choses pas bien, qui méritent, pour certains, d'être poursuivis en justice, notamment qu'ils ont été commis de violence. Mais le problème, c'est le côté amalgamant, où tout se vaut à chaque instant et dans tous les domaines, qui donne vraiment pas envie de faire de la politique d'une aucune manière. Il y avait des choses qui étaient nécessaires du point de vue de la transparence sur les patrimoines, sur les conflits d'intérêts. Évidemment, il faut poursuivre tous les gens qui sont auteurs de violences sexuelles, physiques ou morales. Mais le problème, c'est que la suspicion généralisée sur l'ensemble de la vie politique, ça donne pas du tout envie de s'engager. Évidemment. Il faut être un peu cinglé aujourd'hui pour vouloir faire de la vie politique, parce qu'on sait que concrètement, on a 9 chances sur 10 de se faire rôtir sur un sujet ou sur un autre, et que le niveau d'exigence est 1000 fois supérieur à celui qu'on va avoir un citoyen lambda. On
se souvient de l'affaire Dominique Baudis, hein.
Ah oui, épouvantable.
Dans un autre cas où il y avait clairement une manipulation. Enfin, on va la rappeler rapidement.
Il avait été accusé de participer à des parties fines entre guillemets, qui n'étaient pas très fines d'ailleurs.
Et proxénétisme,
et on peut le dire, il en est presque mort. Hein. Est-ce que finalement, il faut, parce que Madame Rousseau, Madame Rossignol dit, mais après tout, ces organes de contrôle partisans, les conseils de l'ordre, des avocats, des médecins, des architectes, dès qu'il y a un problème dans une profession, ils peuvent se saisir justement des dossiers qui sont à caractère, pour certains, moral. et qui donnent des décisions. Et pourquoi ça marcherait pas dans les
politiques ? Ça, ce sont des structures qui se sont bâties sur des très longues périodes. On n'a pas un ordre des médecins qui est apparu ad hoc ces trois dernières années. Ces structures-là qu'on voit dans les partis sont très récentes et sans doute qu'elles n'ont pas encore eu le temps de mettre en place tous les garde-fous qui empêchent les dérives qu'on voit en ce moment. Ouais. Là, on est en train d'assister effectivement à l'explosion de ces instances-là, mais le fait qu'elles sont en train de toucher leurs limites. Ouais. Donc, on imagine assez bien qu'après, des garde-fous vont être mis en place pour empêcher ces phénomènes de dénonciation publique, mais pour l'instant, ça se met en place et c'est totalement incontrôlable.
Alors, on va l'écouter, Madame Rossignol.
Ces affaires, elles révèlent une chose. D'abord, que nous savions déjà avant ces affaires qu'on ne peut pas être calé sur les décisions de justice, parce qu'il y a de nombreuses affaires dans lesquelles les faits sont avérés, ils sont inacceptables, et pour autant, la justice, pour différentes raisons qui tiennent à ses règles, n'a pas pu sanctionner les auteurs. Et nous, le monde politique, nous devons avoir notre propre déontologie qui est différente du code pénal et des décisions de justice.
On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par tel ou tel parti. Il y a la justice et il y a un code pénal.
Marie-Lou, c'est dangereux, la proposition de Madame Rossignol ?
En tout cas, les partis de droite et d'extrême droite, c'est l'argument qu'ils utilisent de dire que au RN, par exemple, il n'y a pas de cellules de ce type, parce que eux utilisent l'argument de dire on ne va pas créer de cellules ad hoc. Si ce type de problème est identifié au sein du parti et il peut y en avoir, qu'ils saisissent la justice.
Il y a eu l'affaire Rabat il n'y a pas longtemps. Hein.
Voilà, absolument. Moi, je parlais du RN, mais qui n'est pas à l'abri non plus, qui saisissent la justice, et c'est à la justice de trancher ces choses-là, non pas aux partis politiques qui sont, en l'occurrence, alignés sur le garde des Sceaux.
Bon, moi, je trouve ça effrayant ce qu'il a dit, parce que c'est juste de ne pas comprendre la justice, on le sait bien, c'est pas la voix de Dieu qui dit c'est le bien, c'est le mal. Ouais. C'est une construction humaine, depuis la nuit des temps, pour réguler la violence dans la société, qui peut se tromper, mais c'est un pacte auquel on obéit tous, et c'est comme ça que ça marche, la société politique. Et on sait bien que c'est pas le bien et le mal, on le sait. Mais là, elle dit, parfois, la justice se trompe, évidemment, mais c'est le jeu social de croire la justice. La faire tomber, c'est très grave.
Elle dit même plus que ça, pour aller dans votre sens, elle dit, oui, pour des raisons qui lui appartiennent, oui. Comme si c'était des détails, mais les raisons qui appartiennent, c'est tout simplement qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve, voilà. Qu'on respecte la présomption d'innocence, qu'il y a une enquête, qu'il y a le respect du principe du contradictoire. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup étonné dans l'histoire Julien Bayou, mais qui m'avait aussi étonné dans l'histoire Tahar Bouaf, c'est, vous êtes
militant... Alors ça, c'est une affaire avant les élections.
Avant les élections, ce militant de la France Insoumise qui n'a pas été candidat, qui a été débranché parce qu'il était accusé. Dans les deux cas, pour des raisons totalement différentes, des contextes sont différents, les deux ont dit qu'ils n'ont pas pu aller s'expliquer sur les faits. Ils ne pouvaient pas savoir de quoi ils étaient accusés. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est le propre d'un régime totalitaire. C'est que on vous passe à la question et vous ne savez pas
pourquoi
et on vous demande de vous auto-incriminer sur un sujet dont vous n'avez aucune idée. Donc ça, c'est vraiment le pire de pouvoir être retrouvé dans un régime stalinien. Vraiment, c'est vraiment extrêmement dangereux.
C'est vrai. Et la répétition des cas fait qu'on peut se demander si c'était pas un système institué au sein de la France insoumise, puisque avant Tahar Bouaf, il y avait aussi Thomas Guénolé, qui avait subi le même procès, accusé sans preuve et incapable de savoir de quoi on l'accusait.
Oui. C'est effectivement ce qu'on appelle un procès stalinien.
Oui, la mise en cause publique en fait permet de court-circuiter l'étape de la défense pour celui qui
est accusé. Et de détruire une réputation. Et une carrière. Alors, autre question, je pense qu'on va en reparler de toutes ces histoires, mais autre question qu'on se pose régulièrement depuis maintenant plus de 40 ans, pourquoi la France n'arrive pas à faire des économies là où, dans d'autres pays, on y parvient? Alors la France, c'est vrai, elle a un régime social qui est très protecteur, que beaucoup nous envient d'ailleurs, il faut le dire, hein, qui coûte cher. Mais néanmoins, on a une dette qui est parmi les plus importantes des pays, on va dire des pays riches, si tant est qu'on le soit encore, mais je pense qu'on l'est encore quand même. 3 000 milliards de dollars d'euros de dette.
On prend encore
pas de dollars.
Ça nous viendra peut-être.
et on n'arrive pas. Les gouvernements se succèdent, qu'ils soient de droite, de gauche. Ils font des promesses. On est à l'euro près, nous dit Bruno Le Maire hier, et néanmoins, on fait un budget où il y a 500 milliards d'euros de dépenses et il y a 345 milliards d'euros de de recettes.
Donc, 160 milliards
cherchez
de déficit. Oui, c'est très frappant. En fait, la dette et la France, enfin, la dette française, depuis 40 ans, ne fait qu'augmenter. En période de prospérité, on augmente tout doucement, quand les autres pays la réduisent leur dette. Et en période de crise, ça explose, parce qu'on dépense à tout va pour amortir la crise. Et en fait, je pense que c'est pas qu'une question de manque de volonté politique, c'est que la structure du budget français est particulière. On a des impôts extrêmement élevés, le taux d'imposition le plus important de l'OCDE, et donc en face, pour essayer de compenser ça, vous avez des tonnes de niches fiscales, mais qui en fait remettent un peu, grosso modo, le taux d'imposition un peu plus bas. Donc par exemple, il y a 100 milliards d'aides fiscales aux entreprises. Donc on peut se dire, ce serait facile d'en enlever par-ci, par-là.
Non.
Mais dès que vous touchez à l'une...
Il y a un chien qui aboie, oui.
Voilà, et toutes les entreprises disent, attendez, on va faire, vous voyez, mon Dieu, tout le secteur du BTP va faire faillite, mon Dieu, dans les dom-toms, ça va être une catastrophe. Et en fait, vous pouvez pas toucher à grand-chose. Et le fond du problème, c'est il faudrait une réforme de l'État beaucoup plus structurelle, beaucoup plus complexe, des services publics, qui sont aujourd'hui, en plus, avec ce niveau de dépenses, on voit bien que l'école ne marche pas, les hôpitaux ne marchent pas. Donc moi, je pense, c'est pour ça que du coup les gouvernements reculent, c'est qu'il y a, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment revoir tout le modèle.
Gaspard.
Non, je trouve que ce sujet est fascinant à plus d'un titre. Tout d'abord, du point de vue de la communication.
Oui.
Ce matin, j'ai écouté Bruno Le Maire sur France Inter.
Oui.
On avait l'impression d'être dans 1984 d'Orwell. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun rapport entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il disait, je fais des économies et on creusait le déficit, on est à l'euro près, en fait, il y a beaucoup plus de dépenses. Donc, les mots n'ont quasiment plus aucun sens. Et ça, c'est vraiment très dangereux d'un point de vue démocratique. J'ai rien contre Bruno Le Maire qui fait ce qu'il peut en gérant des contraintes et c'est lui qui se retrouve à devoir défendre tout ça. Mais c'est vraiment absurde. C'est-à-dire que pour les citoyens qui essaient de recroire en la politique, c'est vrai que c'est très difficile, première chose. La deuxième chose, effectivement, les gouvernements ont toujours du mal à faire des économies. Alors, il y a quand même des moments où on arrive à ralentir l'augmentation de la dépense. Alors, en phase de croissance, c'est plus facile. C'est très paradoxal, mais quand Emmanuel Macron était conseiller de François Hollande à l'Élysée, je connais bien cette époque, c'est à cette époque-là qu'on a réussi, pour financer ce qu'on appelait le pacte de responsabilité, à faire quand même un plan d'économie drastique. Je peux vous dire que ça a sacrément hurlé du côté des côtés territoriales et de l'État qu'on a dû faire ces économies de 50 milliards. Devenu président de la République, Emmanuel Macron a fait la politique inverse, qui est totalement paradoxale. Après, je pense qu'on est aussi tous responsables. Parce qu'en fait, on s'est habitué à cet État prêteur en dernier ressort, État nounou, qui vient à notre secours dans toutes les circonstances. Il y a eu le Covid, il n'y avait plus du tout de croissance, il y a même eu un effondrement de l'économie, et donc on a arrosé l'économie, le quoi qu'il en coûte. Et ça nous a pas trop dérangé pour ceux qui étaient au chômage partiel, etc. Et les entreprises ont pris des PGE, et certains ont même gagné de l'argent dans cette vraiment absurde. Et puis, de façon plus récente, moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai été révolté du chèque pour subventionner le carburant. J'ai trouvé ça inacceptable. Déjà, pour des raisons écologiques, parce que si on supprime tout à fait l'effet prix, les gens n'ont pas du tout envie de réduire leur consommation automobile. Je comprends très bien que ça soit pénible de payer son essence plus cher, mais c'est pas de la faute des Français, c'est de la faute de questions géopolitiques. Puis la deuxième chose, moi, j'ai pas envie que mes enfants, quand ils auront 20 ans, ils me demandent « Mais papa, c'est à ton époque ?» que la dette a augmenté de 20 points, pourquoi faire? Et je dis, bah oui, parce qu'en fait, il fallait que papa puisse continuer à faire son plein d'essence pas cher. Enfin, c'est inouï d'un point de vue éthique, philosophique.
Comment on fait, François Xavier?
Ah ben, comment on fait? C'est extrêmement simple. Pour préparer l'émission, là, je me suis replongé dans deux, trois choses, et j'ai ressenti le rapport Pébro.
Ah oui, sur la dette. Alors là, le rapport Pébro, 2005.
Bon, je vais pas tout vous l'infliger, mais il y a quand même une phrase en introduction de ce rapport qui est extrêmement intéressante. À l'époque, il y avait 1000 milliards d'euros de dette. Donc on était à un niveau acceptable. Et donc, à l'époque, c'était Thierry Breton, qui, dans la lettre de mission qui donne à Pébro, dit « Cette situation reflète la difficulté de la France à mettre en œuvre les réformes nécessaires au redressement de ses finances publiques et donc à la pérennité de son modèle de société. » Et il y a toute une série de propositions. Réformer le régime des retraites, réformer l'assurance chômage, enfin, c'est-à-dire autant de sujets dont on parle en ce moment. Pourquoi il est intéressant, pas tant ce rapport que la date du rapport, 2005, c'est le dernier septennat dans la durée. On passe ensuite au quinquennat, c'est-à-dire que le temps politique pour agir se réduit de 2 ans. On passe de 7 à...
Non, c'est le premier quinquennat.
Le premier quinquennat, 2005. Et donc, on est sur un temps politique qui est extrêmement réduit, enfin, qui est réduit de 2 ans par rapport au septennat, et l'homme politique a mécaniquement moins de temps pour engager des réformes de temps long. Il va, pour réformer les retraites, on voit qu'il y a eu des réformes des retraites durant cette période-là, mais on y est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le travail essentiel n'a pas été fait. Parce que, au bout du compte, il y a toujours l'échéance de l'élection qui arrivent et la nécessité de lâcher un petit peu à telle catégorie, lâcher un peu à telle autre, et donc d'amoindrir la puissance des réformes telles qu'elles devraient. Telles sont décrites, en tout cas, dans ce rapport Pébro.
C'est un argument qui vous séduit, ça. Le temps long, on peut réformer, alors que le temps court, mais on a l'impression que temps court ou temps long, de toute manière, il y a la pression de la rue qui fait que c'est compliqué quand même, hein.
Et c'est révélateur aussi du en même temps et des limites du en même temps macronien, dans le sens où il affiche sa volonté de redonner du pouvoir d'achat, de financer l'action publique, d'investir pour l'emploi, pour l'apprentissage. Donc on donne des moyens et en même temps on veut redresser les comptes publics et finalement c'est incompatible. En fait, on peut pas ménager la chèvre et le chou comme ça.
Surtout quand on dit comme un de Guigné qu'il faut réparer les services publics. Et ce qui est vrai d'ailleurs quand on regarde un peu ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Tiens, on va écoutez, Monsieur Attal, qui est l'homme des comptes publics.
Avoir un budget responsable, ça ne veut pas dire avoir un budget d'austérité. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les dépenses supplémentaires soient le plus équivalentes possible aux recettes que nous percevons. Et c'est ça la trajectoire qu'on est en train de remettre sur les rails. On peut dépenser plus, mais pour dépenser plus, il faut que ça corresponde aux recettes qu'on a en plus. C'est ça qu'on est en train de remettre en place.
Un budget de gauche, oui, parfaitement. C'est, je pense, la définition même. On serait vraiment revenu en 1981. Augmentation des effectifs, augmentation de la dette, augmentation de tous les ministères, et tout ça de manière incontrôlée.
Bon, alors il y a un peu d'excès, évidemment, politique là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose incroyable. Et je sais pas, vous allez me confirmer, je pensais qu'on on recrutait plus sous le mode de la fonction publique. Des contractuels, mais c'est pas le cas là. On recrute 10 000 personnes.
Mais ce sont
pourquoi ? Parce qu'on a besoin de magistrats, on a besoin de policiers, on a besoin d'enseignants.
Ça, ce sont les promesses électorales. Et c'est vrai que l'équation, elle est compliquée, parce qu'on en a vraiment besoin. On voit l'été dernier, il y avait des services entiers d'urgence, je sais pas, à Bordeaux, pédiatrique. Il y avait des nuits entières, il n'y avait pas d'urgence. Donc, il y a des enfants qui auraient pu mourir. Donc, on dit, objectivement, il y a besoin de... Et en même temps, donc, aussi, il y en a forcément beaucoup, on va dans les, beaucoup d'autres qui sont quand même moins utiles, sans doute dans les collectivités locales, tous les doublons qui ont été faits et qui sont pas été toujours bien, qui ont pas été toujours bien gérés. C'est entre les intercos, les mairies, les communes. Il y a énormément de fonctionnaires là. Mais l'équation est vraiment compliquée parce qu'on voit très nettement la question de la sécurité, c'est quand même quelque chose qui préoccupe beaucoup les Français. Il faut évidemment plus renforcer les forces de l'ordre, mais les réformes difficiles qui sont la sphère sociale, et c'est là où il faut que le gouvernement n'ose pas aller, puisque la population est très tendue, et voilà, et c'est prendre le risque de l'impopularité.
Le risque de l'impopularité dont parle Anne Gaspard, c'est, on le sent là, par exemple sur la réforme des retraites. Nicolas Sarkozy en 2010, il réforme les retraites. Il y a des manifestations, ça dure 2 mois. Il y a parfois 1 million ou 2 millions de personnes dans la rue. C'est très tendu, mais il y a une vraie opposition. Enfin, il y a une opposition classique. Il y a les syndicats. Et aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il n'y a plus une opposition monolithique. Donc là, les syndicats ont perdu de leur force. Et on a l'impression que ça peut vite être le... Il y a l'épisode des Gilets jaunes qui est passé par là. Ça peut partir en sucette, si vous me permettez l'expression.
C'est vrai. La météo sociale est jamais une météo très exacte et facile à prévoir. Mais là, on sent quand même imperceptiblement que le pays est à une sorte de veillée d'armes sociale dans la rue. On a eu des épisodes très violents lors du quinquennat précédent. Il y a une volonté d'en découdre. Ouais. Et on ne sait pas sur quoi ça va se cristalliser. Est-ce que ça sera sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage ou encore sur autre chose. Ça finit toujours par arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en 2023, il y aura certainement cette étincelle. Et on voit bien que le président de la République, il est vraiment face à une alternative qui est pas facile à régler. C'est-à-dire que d'un côté, il a envie de garantir une forme de paix sociale et civile, donc il essaie de pas brusquer, il propose une autre méthode, bon, il arrose quand même d'argent, j'allais dire de pognon, le fameux pognon de dingue qui est stigmatisé, là c'est lui qui le donne beaucoup, y compris sur des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, le carburant, c'est totalement invraisemblable, on bloque les prix d'électricité, il y a des bonnes intentions derrière tout ça, mais on s'endette en fait dans cette perspective-là. Et de l'autre côté, il sait que c'est son dernier quinquennat, il a quand même envie de laisser une trace dans l'histoire qui ne serait pas simplement celle de quelqu'un qui a fait le tour du monde, un peu comme le haut représentant de la France auprès des Nations Unies, c'est un peu ce qu'il est depuis quelques semaines, et qui n'aura pas réformé son pays. Parce que aujourd'hui, maintenant qu'on est sur le temps long et qu'on peut l'observer avec dans le rétroviseur, il a fait des réformes les deux premières années de son quinquennat, notamment en modifiant très profondément la répartition de la fiscalité entre le capital et le travail, ISF, flat tax, etc. Il a fait un peu de choses sur l'assurance chômage, mais il y a quand même pas énormément de choses. Dans le livre d'histoire, il y a pas 25 réformes structurelles très importantes. Ouais. Et notamment, si il n'arrive pas pour la deuxième fois de suite à faire la réforme des retraites, ça lui sera reproché.
Alors, que dit-on à l'Élysée? Ah bah vous qui suivez l'Élysée de
j'aimerais bien le savoir. Ouais, exactement. Non, en ce moment, c'est un peu le flou. Il y a une réunion
demain soir,
convoquée par Emmanuel Macron avec la première ministre, les ministres concernés par la réforme des retraites et les chefs de la majorité pour essayer de ramener un peu le calme déjà dans la majorité parce que ça tire dans tous les sens. Il y en a qui veulent aller vite, il y en a qui veulent aller très vite, il y en a qui veulent aller encore plus rapidement, il y en a qui veulent temporiser. Donc c'est un peu le chaos. Pour l'instant, Emmanuel Macron est le seul président de la 5e République à ne pas avoir réformé les retraites. Mmh. Voilà, c'était son grand projet dans son programme de 2017 de mettre en place une réforme des retraites pour mettre en place une retraite universelle. Ça s'est pas fait et on en est revenu à une réforme paramétrique, c'est-à-dire la réforme traditionnelle, c'est-à-dire on bouge un des trois critères, l'âge de départ, la durée de cotisation ou le montant des pensions. Il n'y aura pas le montant des pensions, mais il essaie de trouver plus que le curseur, il s'interroge beaucoup sur la méthode. Et justement, la méthode, c'est est-ce qu'il peut brusquer le pays maintenant en passant très très vite avec un amendement au PLFSS, ou est-ce qu'il attend un peu en se disant que dans 6 mois le climat social sera peut-être encore pire. Voilà, on en est là. Ce qui est le plus probable. Donc on en est là. On en saura vraisemblablement plus en fin de semaine.
Alors il y a aussi l'option je repousse l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Aujourd'hui, ça a l'air plus 65 que 64, si mon petit doigt me dit la vérité.
Alors dans le programme présidentiel, c'est 65. Oui. Après les dans l'entre-deux-tours des législatives, il précise qu'il a pas de tabou sur le voilà. Donc ça voilà.
Et il y a une deuxième méthode qui consiste à dire on va allonger dans la poursuite de ce qu'a fait Madame Touraine la durée de cotisation. Et au demain dans le Figaro, je vous invite à lire un papier de Agnès Verdier-Moulinier, alors qui est évidemment d'inspiration très libérale, mais qui nous raconte, et c'est assez juste je crois, que si on fait cette réforme sur la durée de cotisation, elle pense que c'est ce qui va se passer, mais je pense qu'elle n'est pas plus informée que nous tous, ça a des conséquences financières importantes. Pourquoi ? Parce que ça creuse les inégalités entre le service public et le privé, dans la mesure où le service public n'a pas les mêmes modes de calcul que dans le privé, et donc ce système-là avantagerait le public, alors que si on recule l'âge de départ à la retraite pour tout le monde, bah, sauf pour les carrières longues, tout ce qui a été fait au début du quinquennat d'ailleurs de François Hollande, eh bien tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc ça, c'est quand même assez intéressant.
Oui, c'est une mécanique infernale en fait, les retraites, on se rend compte que dès qu'on touche à un critère, y en a 50 autres qui bougent et qui peuvent provoquer des réactions à droite. Donc effectivement, la durée de cotisation peut provoquer cet effet-là, mais il y a de toute façon des inégalités entre le régime public, privé. Enfin, la réforme des retraites, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la mère des réformes.
D'accord. Vendredi soir, on a la réponse?
En fin de semaine. En fin de semaine.
Il aime bien le dimanche soir, lui.
Ouais, c'est possible. Micro réaction complémentaire. Il faut savoir que cette réforme de retraite, elle n'est pas d'abord utile pour l'équilibre du régime de retraite, même si on devra bouger, mais elle est d'abord utile pour l'ensemble du financement de l'État. Hein. Parce qu'en fait, quelle idée du gouvernement? C'est en augmentant la durée dans laquelle on travaille tout au long de sa vie, peu importe que ça soit en repoussant l'âge de départ ou la durée de cotisation.
On finance
notre réforme parce que vous travaillez, donc vous payez des impôts et donc et vous n'êtes pas encore à la retraite. Vous êtes actif, et en étant actif, vous financez le budget de l'État.
Marine Le Pen, puisque Marie-Lou, vous suivez plus particulièrement Madame Le Pen, elle est restée finalement à 60 ans d'âge de départ à la retraite. Ça voudrait dire que si elle était élue, elle revient en arrière encore.
Ouais. Elle, ça fait vraiment partie, c'est son totem, celui qu'elle refuse d'abandonner depuis 2012. Et elle a indiqué d'ailleurs que si jamais le gouvernement choisissait de passer en force, elle voterait ou le groupe RN déposerait une motion de censure, ou voterait une motion de censure, quel que soit le groupe qui la déposerait.
Même si c'était la France Insoumise qui la déposait. Alors, petite information, hier j'étais avec Monsieur Vallaud, Boris Vallaud, qui lui, au titre du Parti Socialiste, pour ce qui le concerne, ne votera pas, quoi qu'il arrive, une motion de censure venant du Rassemblement National. Donc il y a alors que monsieur Manuel Bompard a dit que il pourrait voter une motion de censure du Rassemblement National. On se dirige de toute manière vers une espèce de chaos parlementaire.
Mais pas forcément, parce que il y a cet arme du 49-3 qui permet de passer en force.
Ouais. Et donc, oui, mais il peut y avoir la tentation. Une motion de
censure. Oui, alors après, il peut y avoir une motion de censure, mais il va falloir, pour qu'elle passe, que LR, qui soutient la réforme des retraites à 65 ans,
la
vote avec LFI et le RN. Donc, c'est ce qui paraît quand même assez peu probable.
Alors. Bah, on va parler maintenant de quelque chose que vous connaissez bien. On va parler de l'extrême droite, hein. À partir de ces élections en Italie, où Madame Giorgia Meloni a triomphé là-bas. Et d'ailleurs, c'est pas un bon résultat si on regarde bien pour ses alliés, qui sont Monsieur Berlusconi et Monsieur Salvini. Surtout pour Monsieur Salvini, d'ailleurs, c'est pas brillant du tout. Et tout le monde se pose la question de savoir, d'abord, est-ce que c'est du fascisme, du post-fascisme, et deuxièmement, de savoir si Madame ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réalisé, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut comparer avec ce qui se passe en France, est-ce que c'est transposable à d'autres pays. Gaspard Ganzer, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Alors d'abord sur l'histoire du fascisme, post-fascisme.
Moi, je regarde toujours l'Italie avec beaucoup d'attention en tant que
ils sont souvent
en avance. Hein, en fait, c'est un laboratoire politique. C'est un peuple qui est très proche du nôtre culturellement et politiquement, et donc. Renzi, quelque part, c'est un peu Macron, hein, d'une certaine manière. Et bon, eux, ils ont un système parlementaire qui, en fait, amortit quand même les chocs politiques beaucoup plus que le nôtre. Nous, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que la personne que vous mettez à l'Élysée, si c'est d'un coup c'est Marine Le Pen, elle a tous les pouvoirs. En Italie, c'est pas exactement la même chose. C'est un système parlementaire dans le cas d'une coalition. Donc, la comparaison n'est pas totalement valable. C'est-à-dire que Madame Meloni n'a pas autant de pouvoir qu'aurait Marine Le Pen si elle était présidente de la République. Il n'en reste pas moins que c'est une personnalité qui vient de l'extrême droite et qui, dans sa jeunesse, s'est revendiquée de l'affiliation fasciste. Elle n'avait aucun doute. En fait, ça ne, même pas de débat sur le sujet. C'est un fait historique. Après, elle-même a fait un cheminement, bon, on ne sait pas s'il est sincère ou simplement tactique, dans lequel elle a cherché à se recentrer en termes d'image, changeant de look, etc. Un peu comme Marine Le Pen vous le compléterez, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. En revanche, elle a gardé dans son programme politique d'une part, et dans la symbolique autour du parti, la flamme, les symboles, les chants, etc. Ça a été très documenté dans la presse, plein de références explicite vis-à-vis de l'héritage du fascisme italien. Donc maintenant, on va juger sur pièce. On a guère le choix, mais on peut quand même avoir des inquiétudes.
Marie-Lou, il y a quand même des programmatiquement, il y a des différences. Madame Meloni est plutôt d'inspiration libérale sur le plan économique. Madame Le Pen plutôt assez interventionniste sur le plan même des sujets de société. Il coche pas tous les mêmes cases quand même.
Non.
Mais il y a une chose qui, à mon avis, les fait se rassembler. C'est d'ailleurs ce que note Jacques de Saint-Victor dans une intervention au Figaro, qui connaît bien l'Italie parfaitement. Il dit c'est le fait qu'ils n'ont participé ni l'une ni l'autre à quelque gouvernement que ce soit par le passé. Ce qui d'ailleurs explique que Madame Meloni fasse un très bon score, ce qui n'est pas le cas de Salvini qui s'est associé à tous les, enfin, au gouvernement précédent, et évidemment à Berlusconi qui est là depuis l'âge de pierre quasiment.
Il y a vraiment ça aussi quand on interroge les électeurs du RN là pendant la campagne, il y avait ce syndrome du c'est finalement les seuls qu'on n'a pas essayé. Pourquoi pas eux? On a tout essayé. Finalement, le système ne fonctionne pas. Le système est pourri. Pourquoi pas eux? C'est le recours un peu, le dernier recours, l'ultime recours de ces électeurs. Et je reviens sur les programmes qui sont finalement Giorgia Meloni et Marine Le Pen sont quand même à distinguer. Les deux sont pas absolument.
Elle serait presque plus proche d'Éric Zemmour, non?
Complètement. Sur le côté sociétal, en tout cas, c'est un conservatisme sociétal qui se rapproche tout à fait de celui que défend Éric Zemmour ou Marion Maréchal, Nicolas Bay, voilà, donc Reconquête.
Ouais.
Et Marine Le Pen se distingue complètement de ça. C'est, elle refusait d'aller marcher avec la manif pour tous, etc. C'est quand même autre chose sur le plan sociétal. Sur l'économie aussi, Marine Le Pen n'est pas libérale. Elle a jamais revendiqué un libéralisme économique que revendique Mélanie. Donc il y a des distinctions. D'ailleurs, Marine Le Pen, quand on lui parle de Mélanie, n'est pas, elle dit oui, je la connais. Je n'ai pas d'hostilité particulière envers elle. Nous pourrions travailler ensemble, mais mon allié historique, celui avec lequel nous siégeons au Parlement européen, ça reste la Ligue, ça reste Matteo Salvini.
Parce que Madame Meloni siège au PPE.
Non, mais c'est Matteo Salvini qui siège avec le groupe RN, enfin au sein du groupe ID, oui, avec la Lega au Parlement européen.
Ce qui n'est pas le cas de Meloni.
Ce qui n'est pas le cas de Meloni.
Qui, elle, siège avec la droite classique?
Oui.
Je sais pas. Ouais.
Elle n'a pas de représentant encore.
Oui, c'est possible.
Elle en a eu par le passé.
Avec les conservateurs, alors je vais demander en régie si c'est PPE ou d'autres conservateurs, parce qu'il y a plusieurs groupes. Hein. D'autres conservateurs, me dit-on. Les Polonais et les Hongrois, oui, donc Viktor Orban et le gouvernement polonais, bien sûr. François Xavier, on dit, et on a entendu partout, c'est le système, enfin le mode de scrutin permet à Madame Meloni de rayonner à la Chambre, y compris au Sénat, parce qu'il faut le dire aussi, le gouvernement là-bas est responsable devant la Chambre des députés, mais aussi devant le Sénat. Hein. C'est un truc très particulier. Finalement, on s'aperçoit que le mode de scrutin en France, il n'a pas empêché Madame Le Pen d'arriver à 89 députés, et que l'élection présidentielle, que Madame Meloni veut d'ailleurs instituer au suffrage universel direct en Italie, tous les 5 ans, on peut dire qu'elle se rapproche du poteau, Madame Le Pen. Hein.
Oui, non, bon, la comparaison vaudra ce qu'elle vaut. Hein, je vous demande de la prendre avec des pincettes, mais ça me fait penser à la crise sanitaire quand le Covid est arrivé en Italie. On les a regardés un peu de haut en se disant bon, confinement jamais chez nous. Et puis un mois plus tard, tout le monde à la maison. C'est un peu le même mécanisme, le même terreau en tout cas qu'on voit en Italie, sur lequel prospère Marine Le Pen.
Sur des pays comparables.
Ouais, c'est prospère sur le même terreau. Et à cela s'ajoute en France le fait que Emmanuel Macron, dès son élection sa campagne de 2017, se lance dans une tentative de restructuration du paysage politique autour d'un nouveau clivage qui oppose d'un côté les progressistes, lui, aux nationalistes eurosceptiques, Marine Le Pen de l'autre côté. Ce clivage-là qu'il a essayé de mettre en place, il est apparu en 2017 puisqu'ils se sont retrouvés tous les deux face à face au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Et
il s'est confirmé en 2022 puisqu'ils se sont de nouveau retrouvés face à face. Donc on sait pas si ce clivage va vraiment s'installer dans le pays, mais la logique voudrait que la principale opposante d'Emmanuel Macron soit Marine Le Pen. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027 puisque la Constitution le lui interdit, ce qui laisse en piste une seule personne, Marine Le Pen. Donc qui sera la vraie question, c'est qui sera l'opposant de Marine Le Pen qui prendra le relais d'Emmanuel Macron dans le camp progressiste. Est-ce que ce camp progressiste ne sera pas affaibli par les 10 ans d'Emmanuel Macron à la tête du pays, parce qu'il aura un bilan là de long terme.
Alors il l'a presque dit il y a pas longtemps, parce qu'il a dit en parlant à ses députés il y a 10 jours, je crois, si on n'est pas unis, nous les progressistes, et ben ce sont les extrêmes qui gagneront. Il l'a dit comme ça. Hein. C'était un samedi soir, je crois, du côté du Louvre, si je m'abuse. L'Italie est dans quel état de forme économique?
Ah, c'est compliqué. Ça explique une partie d'ailleurs de l'élection de Madame Meloni. L'Italie a une inflation très élevée, comme toute l'Europe, et beaucoup plus qu'en France. Les factures se sont envolées. Après, voilà, je vais pas rentrer dans soulever le capot. Les finances publiques sont complexes, ils sont très endettés, mais avec quand même Mario Draghi a fait du boulot pour essayer de rationaliser tout ça. Donc en France, on dit toujours « Ah non, mais l'Italie, ils ont 150% de dette ». Mais franchement, il y avait des tendances qui étaient beaucoup plus sérieuses que chez nous ces derniers temps. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une inflation très élevée, plus que chez nous, parce que aussi
l'État n'intervient pas.
En France, l'État dépense 50 milliards d'euros pour essayer d'amortir un peu l'inflation. Donc, avec tant d'argent, heureusement, ça joue un peu, l'inflation est un peu plus basse. En Italie, il y a eu beaucoup moins d'argent dépensé. Donc l'inflation chez nous, elle est à 6,5, là-bas à 8. Donc c'est pas non plus un tel delta. Et ça, c'est un sujet important. En fait, il y a quand même deux grands sujets, je pense, dans cette élection. Il y a l'inflation, le thème un peu vague et de pouvoir d'achat, mais qui anime quand même beaucoup les gens. Et puis toutes les questions identitaires, notamment la crainte de l'immigration. Et là, je crois qu'aussi la responsabilité du président, c'est d'y répondre. L'inflation, il tente d'y répondre par des moyens, à mon avis, un peu court-termistes, parce qu'il faut s'attaquer bien plus aux causes du problème, qui sont notre dépendance énergétique. Et sur les questions d'immigration, moi, j'ai trouvé qu'un peu sa dernière sortie en disant on va mieux répartir l'immigration dans les villages, alors qu'il va être sûr d'avoir un candidat populiste à l'Élysée en 2027. Enfin là, vraiment, c'est la messe. On y va. Enfin, j'ai trouvé ça complètement absurde. Enfin.
Gaspard, on regarde un peu les pays là. Bon, on savait que les pays d'Europe centrale étaient déjà, on l'a dit, Viktor Orban, la Pologne, l'Italie, l'Espagne où Vox, le parti Vox prend de l'espace, les Pays-Bas, le Brexit, c'est une forme aussi de colère. L'Europe, on dit qu'elle est unie, mais
En tout cas, ce qui est sûr,
ça pourrait aller mal. Hein.
Le populisme sous toute cette forme, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, est très installé dans nos démocraties parce que nos démocraties sont malades. Elles ont du mal à prouver leur efficacité et il y a moins d'attachement culturel, presque psychologique aujourd'hui au mécanisme démocratique. On le voit notamment chez les jeunes générations qui ont plus cet attachement culturel extrêmement fort que on pouvait avoir dans les générations précédentes. Donc il y a une fragilité. Quelles sont les manières d'y répondre? Bah, certainement par l'efficacité, mais aussi, je pense, par une forme de réenchantement de la vie politique. Ah. Je pense que un des problèmes qu'on commence à constater en France, c'est que Emmanuel Macron, avec son intention louable au départ de dépassement du clivage droite-gauche, en fait, a fait énormément de mal au fonctionnement démocratique. Parce qu'en fait, quand on se dit il y a le camp du bien d'un côté et le camp du mal de l'autre côté, et ben en fait, au bout d'un moment, on crée une dualité dont les gens finissent, ce que vous disiez tout à l'heure, par dire bon, on va essayer les autres, quoi. En fait, quand un historien dont le nom m'échappe avait dit un jour, quand on choisit un adversaire unique, on choisit toujours son successeur. Je crois que c'est très vrai.
C'est
donc
vrai.
La seule manière. Enfin, il y a peut-être deux manières d'éviter que Marine Le Pen, si on veut l'éviter en France, arrive au pouvoir dans 5 ans au niveau national. C'est soit que le clivage droite-gauche reprenne, ou ce clivage-là recomposé, pas exactement le même qu'avant, ses lettres de noblesse et qui est un débat entre deux formes possibles d'exercice du pouvoir, on va dire, chez des modérés, de centre-droit, centre-gauche, etc. Donc, beaucoup de travail des deux côtés.
Des deux côtés,
du côté
oui.
de la droite et du côté de la gauche. Ouais. Mais ce travail doit être mené. Ou alors, si Emmanuel Macron considère que la seule manière de l'emporter, c'est que son camp, Renaissance, etc., arrive uni, bah, il faut qu'il désigne un successeur. Et qu'il traîne pas. Et ça, je suis pas sûr qu'il en ait envie.
Ouais.
Parce que s'il le fait, il a fait libérer son propre pouvoir. Mais en fait, c'est la seule solution. On n'improvise pas une candidature à l'élection présidentielle en 2 ans, surtout dans ce contexte totalement inflammable. Donc, il faudra que Emmanuel Macron, au lieu de laisser faire l'émulation entre Darmanin, le maire, Edouard Philippe, etc., il dise, Elisabeth Borne, c'est un tel, et c'est lui qui doit se préparer aujourd'hui à exercer le pouvoir.
D'accord avec ça, non?
Oui, tout à fait. Mais alors Emmanuel Macron, il a aussi une autre idée en tête, c'est 2032.
voilà. Vous voulez donc dire qu'il va nous faire une poutine?
Bah, en tout cas, rien ne lui interdit de se représenter en 2032. Et en laissant courir l'idée qui peut revenir, ça fige aussi le jeu des prétendants. En tout cas, ça modifie leur stratégie, puisqu'il laissant glisser cette idée-là dans l'atmosphère, il leur signifie à tous que c'est pas open bar 2027.
D'accord.
Et qu'il va falloir compter avec lui.
Est-ce que là, vous voyez quand même que c'est la désorganisation la plus totale dans le camp de la majorité?
Oui. Question simple, réponse simple. Oui, non, on le voit plusieurs choses. Déjà, on en parlait tout à l'heure, cette question de la réforme des retraites.
Ouais.
On sent bien qu'il y a une intention à un moment de lancer un ballon d'essai, mais c'est pas un ballon d'essai, c'est une bombe qu'il lance dans le débat public.
Ouais.
Ça manque sans doute un peu de subtilité ou de. Il y a quelque chose qui n'accroche plus à l'Élysée.
Ouais.
Chez Emmanuel Macron, il ne donne plus le tempo. Il peut imposer des thèmes dans l'agenda public. Les retraites, c'est lui qui l'installe. L'énergie, tout le thème de la rentrée sur l'énergie, c'est lui qui l'installe dès la fin juin. Mais on sent bien que Emmanuel Macron parle, et puis tout de suite, on passe aux insoumis. au RN. Il y a une autre actualité politique qui tourne, qui fait que le président de la République n'arrive plus à donner le rythme de la vie politique.
Décidément, les deuxièmes mandats sont toujours difficiles, hein. Monsieur Mitterrand, Monsieur Chirac. Ça a jamais été très bien.
Et surtout, il y a une particularité du mandat d'Emmanuel Macron, du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est dans une zone totalement inconnue. Ouais. François Mitterrand et Jacques Chirac sortaient d'une cohabitation, donc ouais. Il y avait une forme de rupture,
de reprise.
Ouais, de reprise.
Même si économiquement, c'était des périodes très très très, très dures.
C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président est réélu hors cohabitation. Et qui plus est, qu'il ne peut pas se représenter à l'issue de son de son deuxième mandat, ce qui lui enlève une arme de
dissuasion.
Voilà, de dissuasion qu'il peut laisser planer sur je peux me représenter.
Ou de persuasion.
De dissuasion. En tout cas, il a plus la même force d'attractivité. Son deuxième mandat, pour l'instant, ressemble à une histoire d'une lente dévitalisation jusqu'à la prochaine élection présidentielle.
Marie-Lou, alors votre livre, il sort bientôt sur Éric Zemmour. Il en est où alors, Éric Zemmour ?
Alors pour lui,
est-ce qu'il a un avenir politique ?
Est-ce qu'il a un avenir politique ? Je ne sais pas si je peux jouer les Cassandres là-dessus, mais en tout cas, lui est persuadé que l'exemple italien est vraiment porteur d'espoir pour lui et pour sa formation, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le thème de campagne qu'il a usé pendant tous ces derniers mois, c'est celui de l'union des droites.
Ouais.
Il avait théorisé
ce
le fait
qu'il a réussi
que,
à faire Madame Jean-Pierre
absolument. Mélanie. Et pour lui, il y avait cette histoire de cordon sanitaire entre le Rassemblement national, la droite, le fait que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner, qu'elle était finie. Il voyait dans sa candidature la façon en fait d'abattre les murs entre les Républicains d'un côté et le Rassemblement National de l'autre et de faire l'alliance autour de lui. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est ce dont il rêvait, et la conjoncture italienne réhabilite un peu sa thèse. Et c'est ce que disent tous les cadres de Reconquête. Aujourd'hui encore, Guillaume Pelletier, donc qui est le vice-président, a fait une tribune dans le JDD, il me semble, pour appeler à l'union des droites, une coalition sur le modèle italien.
Quel est l'agenda d'Éric Zemmour, là ?
Aujourd'hui, là ?
Dans
les prochains mois, lui, pour l'instant, il se concentre sur des conférences, donc des grandes conférences sur des thématiques bien précises. Il fait finalement ce qu'il faisait avant d'être politicien, avant même d'être candidat. Il fait des conférences à thème sur l'école. Là, c'était à Strasbourg ce week-end. Et puis la prochaine, dans quelques semaines, en France.
Gaspard Ganzer, on sait que François Hollande n'est jamais loin dans le paysage politique.
Il sort un livre, exactement.
Est-ce qu'il pourrait revenir ou jouer un rôle dans la recomposition du Parti socialiste qui a une échéance bientôt?
Alors, il vous dirait lui-même qu'il est jamais parti, hein, qu'il a jamais quitté la vie politique. Revenir pour être candidat à l'élection présidentielle, je crois pas du tout. En revanche, qu'il a un rôle à jouer pour faire émerger une candidate ou un candidat ou forger un collectif, ça, je pense que c'est totalement indispensable. Un des gros problèmes du Parti socialiste lors du quinquennat précédent, donc le premier d'Emmanuel Macron, c'est que les gens ont passé leur envie à faire l'inventaire de François Hollande, à se diviser entre eux. Il n'y avait pas ce collectif. Donc la pauvre Anne Hidalgo, au-delà de ses failles personnelles, dans la dernière ligne droite, elle n'avait pas de collectif derrière. Donc il faut que tout le monde, Cazeneuve, Hollande, Faure, Vallaud...
Ils arrivent à se mettre ensemble ?
Pour l'instant, ils n'y arrivent pas du tout. Mais il va falloir qu'ils le fassent, parce que c'est la seule issue. Parce que paradoxalement, vous allez me trouver provocateur ou peut-être optimiste, mais il y aura de toute façon un espace pour une candidature de gauche modérée à partir du moment où Emmanuel Macron n'est pas candidature. Donc après, il faut trouver la bonne personne, la femme ou l'homme qui est capable de l'incarner, mais il y aura un espace politique, donc il reste à travailler pour y arriver.
Je me permets, mais tout à l'heure vous parliez de réenchanter justement la vie politique, les élus. Est-ce que resservir aux électeurs de gauche du François Hollande, du Bernard Cazeneuve, c'est pas l'inverse de ça?
C'est pas ce que je propose du tout. Je pense qu'ils ont, il faut pas du tout, ils sont en première ligne. Je pense qu'ils doivent faire émerger des nouvelles personnes. En revanche, qu'ils montrent qui se mettent au service du collectif et qui sont en soutien comme des figures référentielles. Ils ont quand même François Hollande, il a quand même gagné l'élection présidentielle. Cazeneuve, il a été Premier ministre. Donc cette expérience, elle peut être utile à d'autres, pas du tout pour jouer un rôle, mais pour aider à faire émerger.
La droite est dans un état d'esprit, non ?
Oui, c'est pas. En fait,
elle est pas dans l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, il le cherche, mais elle est dans le même état.
Non, mais ça soulève une question intéressante à laquelle personne n'a encore la réponse. C'est est-ce que le macronisme survivra à Emmanuel Macron ? C'est une fois qu'on enlève Emmanuel Macron, est-ce qu'on retrouve un clivage droite-gauche traditionnel ? Ce qui semble quand même le plus probable, puisque il y a quand même 200 ans d'inertie de vie politique qui vont se remettre en place. Et donc on voit bien effectivement la gauche rêve de se réorganiser autour d'un parti socialiste de retour et fort, puis la droite, bon, essaye un peu de...
Vous savez ce que disait Malraux?
Alors, vous allez vous dire.
Le gaullisme est mort le jour où Malraux est, ou de Gaulle.
Eh ben voilà.
Oui, je crois qu'il avait raison.
Il avait raison. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce soir. Merci Anne de Guigné, merci de vos éclairages, notamment sur la dette abyssale de la France. Merci Gaspard Ganzer de vos commentaires. Merci Marie-Lou Magal. Merci François-Xavier Bourbeau qui est allé rechercher jusqu'au rapport Pébro. De 2005. Mais c'était pas inutile du tout. Et puis, bien à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et passez d'ici là une bonne semaine. Bonsoir.